VOA Afrique, les infos. À Washington, Jean-Roger Bion.
Il est 13h, temps universel. Bonsoir, bienvenue en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens attendent ce lundi les résultats de l'élection présidentielle de dimanche qui s'est déroulée sans incident et dont le président sortant Alassane Ouattara est le grand favori. Les résultats officiels devaient être connus mardi avec des résultats provisoires dévoilés dans la journée aujourd'hui même. Le taux de participation qui était l'un des enjeux du scrutin avec un appel au boycott de 3 candidats et d'une partie de l'opposition devait être annoncé dans les prochaines heures. Mais comment s'est déroulé le premier tour de la présidentielle? Tatiana Mosso, notre envoyée spéciale, a tendu son micro à M. Yakouba, un observateur électoral ivoirien.
Les élections se sont bien passées. Il n'y a pas eu, en tout cas dans les centres où je suis passé en tant qu'observateur, je n'ai pas eu d'incident majeur. Donc, dans l'ensemble, je dirais que tout s'est bien passé. Les gens sont venus voter calmement et ils sont retournés calmement.
Et le président congolais Denis Sassou Nguesso a subi un camouflé lors du référendum organisé dimanche au Congo sur un projet de constitution qui lui permettait de se représenter en 2016. A estimé aujourd'hui Pascal Tsatsi Mabiala, l'un des chefs de l'opposition à Brazzaville, dans un entretien avec l'agence France Presse. Groupé en plusieurs coalitions, les opposants congolais au chef de l'État ont qualifié cette consultation populaire de coup d'État constitutionnel et avaient appelé la population à la boycotter. Le projet de constitution soumis aux urnes fait sauter les deux verrous qui empêchent M. Sassou Nguesso de briguer un troisième mandat, la limite d'âge et celle du nombre des mandats présidentiels. Eh bien, comment s'est passée l'élection hier dimanche? On rejoint tout de suite à Brazzaville notre correspondant Ngola Ngusu.
Ils n'ont été presque pas présents dans les bureaux de vote ce dimanche à Bakongo, à Madibou, Makelekele et Mfilou, quatre arrondissements de Brazzaville récemment secoués par les troubles. Suivant de près le mot de boycott lancé par l'opposition, Guérome Kinfoussia, le porte-parole du FROCAD, fait le point.
Sur l'ensemble du territoire national, nous avons positionné nos militants. C'est à l'intérieur, à Pointe-Noire, à Delizy, Nkaï, Ouesso. Tous sont unanimes pour dire que les populations sont restées chez elles en boudant les bureaux de vote. Elles vaquent à leurs occupations habituelles. Voilà. Donc ce qu'il faut noter déjà, c'est que notre peuple vient de gagner une victoire éclatante. Le peuple vient de paralyser tout le pays qui n'a pas été voté. Ça, il faut le noter. Cette victoire, nous allons l'amplifier en continuant la désobéissance civile jusqu'à ce que cette mascarade électorale soit retirée.
Discrètement, quelques-uns sortent pour aller voter pour la paix.
Je les invite à venir voter parce qu'on doit vivre dans la paix, c'est tout.
Simone Lubienga, la maire de Bakongo, salue le courage de ceux qui sont allés voter.
C'est un libre arbitre pour que chacun aille au vote. Que ceux qui veulent aller voter, aillent voter.
Après avoir voté lui aussi à Bakongo, le président Denis Sassou Nguesso a reconnu que ceux qui n'avaient pas voté étaient aussi des Congolais.
Cela peut s'assimiler à l'abstention. Encore que ça aurait été mieux que soit exprimé par un non dans les urnes. Ça aurait été mieux. Ainsi, on aurait compris qu'une partie du peuple a pu dire oui et une autre a pu dire non. Et si cela peut s'assimiler à l'abstention, nous notons que c'est l'abstention. Mais c'est toujours une partie du peuple congolais qui se sera exprimée ainsi.
Dans les départements du sud-ouest traditionnel, bastion de l'opposition, de nombreuses populations ont préféré rester chez elles, tandis que dans le nord, un vote massif a été signalé. Nguela Ngusu, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
En Tanzanie, le principal parti d'opposition dénonce de possibles fraudes lors des élections générales de dimanche où l'hégémonie du parti au pouvoir, le CCM, pourrait être contestée pour la première fois depuis l'indépendance. Les électeurs se sont rendus aux urnes pour choisir le président, les députés et les conseillers municipaux. Le président Jakaya Kikwete, ne pouvant pas briguer un troisième mandat. La course à la présidence se joue entre John Magufuli, candidat du parti au pouvoir, le CCCM, et l'ex-premier ministre Edouard Lowassa, âgé de 62 ans, un vétéran du CCM, désormais à la tête de la coalition d'opposition Ukawa. En Haïti, dépouillement du vote après le premier tour de la présidentielle et le second tour des législatives dimanche. Plus de 50 candidats sont en lice à la présidentielle, mais deux aspirants se détachent déjà du peloton. Jude Célestin, le candidat déchu de la deuxième place à la présidentielle de 2010, au profit de l'actuel président Michel Martelly, et le docteur Maryse Narcisse, un médecin bénéficiant du soutien de l'ex-président Jean-Bertrand Aristide. Le second tour est prévu début novembre. Le président Martelly ne peut se représenter vu que la constitution haïtienne interdit les mandats consécutifs à la tête de l'État.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Retour sur le continent, au nord du Mali, nouvelle attaque hier à Tessalit dans la région de Kidal, après celle signalée vendredi dans la région de Tombouctou. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
Après l'attaque d'un checkpoint à Tombouctou par des hommes non identifiés qui a occasionné la disparition des militaires maliens, un autre a été blessé et un véhicule emporté. Les terroristes viennent encore de frapper à Tessalit. Bilan 2 morts, un chef de famille et son épouse sont les victimes. Les soldats tchadiens de la MINUSMA venus au secours, leur engin a sauté sur un explosif faisant 2 blessés. Pour les Maliens, le gouvernement doit changer le fusil d'épaule par rapport à la situation dans la région de Kidal.
Si nous continuons sur cette lancée, il sera très difficile pour nous de pouvoir s'installer. Il s'agit de ces fonctionnaires qui y vont, de ces ONG qui y vont. Il sera très difficile pour nous de s'installer à Kidal parce que Kidal est devenu un terrain politique, un terrain économique pour les narcotrafiquants. Ce sont des gens Kidal, mais pour des intérêts économiques, c'est-à-dire la vente de la drogue, le passage de la drogue, les trafics, etc.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
L'Union européenne a invité ce lundi les autorités du Burundi à des consultations sur les atteintes à la démocratie dans ce pays secoué par une grave crise depuis le printemps. Une procédure susceptible de conduire à la suspension de l'aide européenne. Les 28 pays de l'Union ont donné leur feu vert à l'envoi d'un courrier au président burundais Pierre Nkurunziza au cours d'une réunion des ministres du développement à Luxembourg. Les belligérants de la guerre civile au Soudan du Sud ont signé aujourd'hui à Addis Abeba un document les engageant à mettre en œuvre le volet sécuritaire de l'accord de paix signé au mois d'août. Le document prévoit, d'après l'AFP, que les discussions sur la démilitarisation de la capitale Juba, les positions des troupes des deux camps et la création d'une armée unifiée interrompue depuis le mois de septembre par les négociateurs rebelles reprennent immédiatement. Les négociations butent notamment sur la composition des troupes autorisées à rester à Juba. Les rebelles souhaitent que les 5000 soldats mentionnés dans les discussions soient partagés à part égale entre les deux camps.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'ONG Human Rights Watch a indiqué aujourd'hui avoir rencontré l'un des fils de l'ancien dictateur libyen Muammar Kadhafi, Saadi, et des ex-responsables du régime déchu qui ont fait état de mauvais traitements en prison. Saadi Kadhafi a indiqué que les témoins de la défense étaient soumis à d'énormes pressions et que ses avocats n'étaient pas présents durant ses interrogatoires, a reporté Human Rights Watch. Sur les 7 fils de Kadhafi, 3 sont morts pendant la révolution, de même que leur père tué par les rebelles en octobre 2011. Saïf al-Islam, le fils le plus en vue du dictateur, a été condamné à mort le 28 juillet par un tribunal de Tripoli pour notamment assassinat, pillage et sabotage. Il est détenu depuis le mois de novembre 2011 à Zenten, au sud-ouest de la capitale, par des milices opposées aux autorités de Tripoli. Aux États-Unis, le vice-président américain Joe Biden, qui a annoncé la semaine dernière, après plusieurs semaines de spéculation, qu'il ne serait pas candidat à la présidence des États-Unis en 2016, a expliqué avoir pris cette décision parce qu'il n'aurait pas pu gagner. Le vice-président américain, qui a déjà tenté sa chance par 2 fois pour entrer à la Maison-Blanche, a souligné qu'il pensait toujours qu'il pourrait faire un meilleur travail que quiconque. Interrogé pour savoir s'il avait l'intention de briguer un mandat politique à l'avenir, il a répondu par la négative. Jean-Roger Billon à ce micro, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans 50 minutes, ce sera sur la même station. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA.